Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Une première depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, un ferry de voyageurs venant d'Algérie est attendu aujourd'hui à Marseille. L'Algérie avait fermé ses frontières maritimes le 19 mars 2020. Alger ne fournira plus de gaz à l'Espagne via le gazoduc qui passe par le Maroc. Le président algérien a ordonné de sceller le gazoduc. La COP26 en Écosse, les dirigeants mondiaux vont s'engager aujourd'hui à enrayer la déforestation d'ici à 2030 pour protéger le climat. Changer le regard porté sur les personnes qui souffrent de troubles mentaux, le souhait du député et médecin psychiatre Brahim Amouche, il sera l'un de nos invités. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Christophe Rossignol, secrétaire général du mouvement Liberté, Écologie, Fraternité. Il évoquera notamment la question des énergies renouvelables préconisée par les écologistes, extrait dans votre édition. C'est donc une première depuis le début de la crise sanitaire. Un ferry de voyageurs venant d'Algérie est attendu aujourd'hui à Marseille. L'Algérie avait fermé ses frontières maritimes le 19 mars 2020. Les frontières aériennes fermées depuis le 17 mars n'ont rouvert que partiellement le 1er juin vers 7 pays. Alger ne fournira plus de gaz à l'Espagne via le gazoduc qui passe par le Maroc. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné de sceller le gazoduc. Cela se traduit par la cessation des relations commerciales entre la compagnie algérienne Sonatrach et l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable et le non-renouvellement de l'accord qui expirait dimanche à minuit. Les livraisons de gaz algérien à l'Espagne se feront désormais exclusivement via le gazoduc sous-marin Medgaz, lancé en 2011. La COP26 en Écosse, les dirigeants mondiaux vont s'engager aujourd'hui à enrayer la déforestation d'ici à 2030 pour protéger le climat, une annonce du gouvernement britannique. Emmanuel Macron a appelé hier les pays les plus gros émetteurs de CO2 en retard sur leurs engagements à rehausser leurs ambitions dans les 15 jours, le chef de l'État français.
Nous savons que notre objectif, c'est le 1,5 degré pour la fin du siècle. Cela a été réaffirmé encore en G20 à Rome hier. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'y sommes pas, puisque le rapport de septembre des Nations Unies nous dit que notre trajectoire actuelle nous amène à 2,7 degrés. Les efforts qui ont été annoncés en prévision de la COP ces dernières semaines commencent à réduire cet écart. La clé de notre action collective est que dans les jours qui viennent, avant la clôture de cette COP, il puisse y avoir suffisamment d'engagement pour revenir au 1,5 degré, ou plutôt à des stratégies nationales qui crédibilisent cet objectif, en particulier en accélérant nos stratégies d'ici 2030. Premier objectif et première valeur qu'il nous faut retrouver donc, c'est l'ambition. L'ambition, c'est ce que portent nos stratégies nationales, et les chiffres sont là pour le dire. Il faut tous et toutes pouvoir avoir des stratégies qui correspondent à la déclinaison du 1,5 degré maximum dans nos stratégies nationales. À ce titre, la France, mais plus largement l'Union européenne, le Royaume-Uni sont aujourd'hui au rendez-vous de ces engagements. Notre défi est maintenant de les mettre en œuvre, et je n'en sous-estime ni l'importance ni la difficulté. Nous avons donc aujourd'hui, nous, un défi qui est la mise en œuvre du Green Deal au niveau européen, de nos stratégies nationales, mais les chiffres annoncés sur lesquels nous nous sommes engagés sont ceux qui permettent de crédibiliser ces 1,5 degré. C'est une transition énergétique, c'est une transition du modèle économique. Cette transition doit être juste et accompagnée socialement. Et cette transition est celle qui permettra aussi de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles créations d'emplois à travers justement des innovations profondes, la construction de nouveaux secteurs et de nouvelles opportunités. C'est ce que nous sommes en train de faire et ce sur quoi nous concentrons nos efforts et nos mises en œuvre au niveau national et européen. Mais à côté de cela, la clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif des 1,5%, des 1,5 degrés, pardon, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. C'est le seul moyen de recrédibiliser notre stratégie et d'avoir des stratégies d'ici à 2030 qui permettent de rendre crédibles les 1,5 degrés Celsius.
Le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Le Liban appelle l'Arabie Saoudite au dialogue pour régler la crise diplomatique entre les deux pays. Une crise née des propos du ministre libanais de l'Information qui avait critiqué l'intervention militaire de Riyad au Yémen. Riyad mène depuis 2015 une coalition militaire qui soutient le gouvernement yéménite face aux rebelles. L'Arabie Saoudite a arrêté vendredi les importations en provenance du Liban. Le premier ministre déchu du Soudan, Abdallah Hamdok, estime que la voie vers une sortie de crise passe par le retour de son cabinet déposé. C'est ce qui ressort d'une rencontre avec les ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de Norvège au Soudan. Abdallah Hamdok est toujours placé en résidence surveillée à son domicile. Cet appel du député et médecin psychiatre Brahim Amouche. Il souhaite que le regard porté en France sur les personnes atteintes de maladies mentales change. Le parlementaire souligne que beaucoup de préjugés négatifs persistent, renforçant la perte d'estime de soi et que 75% des maladies psychiatriques débutent avant l'âge de 25 ans. Entretien avec le député Modem de Moselle, le docteur Brahim Amouche.
Il reste encore un des sujets tabous, très peu évoqués par les familles, beaucoup stigmatisés par les médias, avec parfois du vocabulaire très péjoratif vis-à-vis des patients atteints de tel ou tel trouble. Lorsqu'on est dans des ambivalences, on parle d'attitude schizophrénique. Lorsqu'on est dans un refus d'écoute, on parle d'autisme. Vous voyez, donc ce sont des termes qui sont complètement décalés par rapport à la réalité clinique et qui sont très péjoratifs et très stigmatisants pour les patients qui sont eux-mêmes autistes ou schizophrènes. Donc il y a un vrai sujet, un vrai tabou et une vraie stigmatisation vis-à-vis des maladies mentales et de la souffrance psychique dans notre pays, malgré les avancées de la neuroscience et malgré, je dirais, les avancées des droits des patients.
Vous évoquez ces préjugés négatifs et vous rappelez que les personnes qui, par exemple, souffrent de schizophrénie sont avant tout des victimes ou des dangers pour elles-mêmes et non pour les autres.
Oui, absolument, absolument. Contrairement à ce qui peut être relayé ici ou là, encore une fois, dans la caisse de résonance médiatique, voire dans certaines lois politiques circonstancielles, le malade mental, et en particulier le schizophrène, est d'abord dangereux pour lui-même. Il n'est absolument pas dangereux pour les autres. Lorsqu'il y a une décompensation délirante, avec des hallucinations, qu'elles soient visuelles ou auditives, c'est d'abord le patient lui-même qui se met en danger. Nous avons en France un des tristes records des tentatives des suicides en Europe. Nous sommes un des pays où on a le plus grand nombre de tentatives de suicide, faut-il le rappeler. Nous avons également des retards diagnostiques. Aujourd'hui, pour permettre d'avoir un diagnostic positif, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire confirmé d'un trouble bipolaire de l'humeur, il faut parfois attendre 10 ans. Et les psychoses sont parfois elles-mêmes, pendant 2 ans, plus de 2 ans même, non traitées. Donc là, il y a du vrai retard de prise en charge et de diagnostic qui explique aussi l'errance des patients et la désorganisation sociale, voire la précarisation, l'appauvrissement et des patients qui se retrouvent SDF, faute de soins.
Et est-ce lié également à ces préjugés négatifs, les malades qui hésitent à aller consulter?
Il y a surtout, je pense, aujourd'hui en France, et l'actualité récente le montre, une désorganisation en termes de notre système de santé. C'est-à-dire que notre système de santé, nous avons parlé de la réduction des lits dans les hôpitaux généraux. Malheureusement, la psychiatrie a été abonnée à cette réduction des lits. Nous sommes passés de 120 000 lits il y a 40 ans, à 40 000 lits aujourd'hui, donc une baisse de 30% des lits d'hospitalisation. Nous avons un système de santé organisé sur l'ambulatoire qu'on appelle le secteur, qui aujourd'hui est également en très grande difficulté. Donc nous avons, au niveau de notre prise en charge, nous avons une offre qui n'est pas adaptée aux besoins de la population et à la responsabilité territoriale de la santé et de la santé mentale.
Vous rappelez que la grande majorité des maladies psychiatriques débutent avant l'âge de 25 ans. Faut-il davantage sensibiliser les parents, mais également les adolescents, à la consommation de substances psychoactives comme le cannabis, par exemple?
Alors, il y a effectivement 75% des maladies mentales commencent avant l'âge de 25 ans. Donc ça, il faut effectivement le dire et le rappeler. ce qui signifie qu'il faut une vraie éducation dans les annonces faites par le président. Il y a ce qu'on appelle les premiers répondants, c'est-à-dire que vous, comme bon, moi je suis psychiatre, donc je dirais que comme toute la population tout venante doit être capable de faire des gestes de réanimation cardiovasculaire, eh bien il va s'agir aussi de former l'entourage immédiat, amis, famille, à être à l'écoute des premiers symptômes de dépression, des premiers symptômes de désorganisation, donc des premiers symptômes d'entrée dans une maladie psychiatrique, voire de simples difficultés psychiques, et de pouvoir appeler ce qu'on appelle les premiers répondants et de pouvoir contacter des équipes spécialisées. Donc nous aimerions monter en charge et passer de 20 000 à 60 000 en quelques années. Donc il y a une vraie sensibilisation, éducation aux premiers symptômes, aux premiers signes d'alerte. Il n'y a pas que les psychotropes ou les consommations de substances psychoactives. Là, c'est un vaste débat. Hein. Est-ce que les substances sont cause ou conséquence d'une maladie mentale ou psychiatrique? En tous les cas, il est clair que la consommation de substances psychoactives parfois entraîne l'explosion de symptômes. Je crois que au-delà des consommations de drogue, il faut surtout sensibiliser à la souffrance. Je crois que le mot le plus important, c'est la souffrance.
Vous êtes député, quel type d'action préconisez-vous pour combattre les préjugés que vous déplorez?
Écoutez, on peut faire, en tous les cas, on peut que la santé mentale soit une grande cause de santé publique. Moi, je plaide en tant que député et psychiatre pour que cela soit le cas. On peut faire effectivement dès l'école sensibiliser, je vous ai dit, aux premiers répondants, sensibiliser aux difficultés. Et puis, je crois que, comme politique, nous devons avoir la volonté politique, la puissance publique d'organiser les choses, parce que la santé mentale particulièrement, souffre de trois choses, à la fois d'une crise organisationnelle, une crise budgétaire et une crise culturelle. Donc, à ces trois crises, eh bien, il faut répondre par de l'organisationnel, du budget, de l'argent, du financement, et bien évidemment, culturellement, modifier les représentations qu'on peut avoir de la maladie mentale. Ce que je dis à mes étudiants lorsque je les formais en psychothérapie, je leur disais trois choses. Pour apprendre la psychothérapie, c'est d'oublier les ouvrages que vous aurez pu lire, d'écouter le patient, d'apprendre une langue étrangère, et de partir 6 mois, 1 an dans un pays étranger pour se confronter à des vies différentes, à des cultures différentes, pour comprendre que ce qui est vécu par un patient, c'est un peu l'expérience qu'on peut vivre soi-même dans un pays étranger qui n'a pas la même culture, et donc se mettre en même temps avec le patient, à la place du patient, c'est-à-dire on peut pas vivre ce qu'il vit, mais en tous les cas, on peut l'accompagner dans son vécu, comme si nous étions dans un pays étranger et vivre avec une culture différente. Donc je crois que c'est important de changer culturellement nos représentations pour ne pas faire du fou un dangereux, mais quand je dis fou, bien évidemment entre guillemets, mais de la folie, quelque chose qui relève de l'humanité.
Le député MoDem de Moselle, le docteur Brahim Amouche. La pandémie de Covid-19 a causé la mort de plus de 5 millions de personnes dans le monde et ce bilan prend en compte les décès comptabilisés par les autorités de santé nationale. Il ne représente donc qu'une part des décès réellement liés au coronavirus. L'OMS estime qu'en considérant la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que celui officiellement recensé. Un contrat engagement jeune verra le jour le 1er mars prochain. Il proposera aux jeunes gens de moins de 25 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois, cela en contrepartie de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Christophe Rossignol, secrétaire général du mouvement Liberté, Écologie, Fraternité. Et dans cette émission, il évoque notamment la question des énergies renouvelables préconisées par les écologistes.
Alors d'abord, les Français sont favorables aux énergies renouvelables et ils font preuve de bon sens. Du soleil, il y en a beaucoup. Du vent aussi, de l'eau, on peut l'utiliser, il y en a un peu moins, et la France utilise pas mal ces énergies, marées motrices, mais aussi on voit qu'il y a des recherches qui font progresser considérablement l'efficacité des énergies renouvelables. D'autre part, Les Français savent pertinemment que rien n'est gratuit et que nous n'avons pas de pétrole. Donc il faut essayer aujourd'hui, la première chose qu'il y a à faire, et ce qui est dit par les écologistes, mais aussi par pas mal de gens de bon sens, c'est que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et pour ça, ça fait des années qu'on attend que l'État, d'abord, vis-à-vis de son propre patrimoine, fasse des travaux, de façon à pas gaspiller l'énergie, et qu'il aide les Français à faire de même. Parce que c'est des travaux qui sont parfois un peu coûteux, et donc ça permettrait à la fois de ne pas polluer, d'économiser de l'énergie et de ne pas acheter du pétrole à des pays qui sont pas toujours sur plan démocratique les plus avancés. Donc la première des directions, c'est évidemment de consommer moins. La deuxième, c'est de faire des recherches. Et sur les énergies renouvelables, il y a un véritable enjeu de recherche, c'est de pouvoir stocker ces énergies. Après, on arrivera dans une autre période. Et sur la voiture électrique, ce qui est intéressant, c'est évidemment que c'est un procédé qui nécessite beaucoup moins, enfin, parce qu'il y a des systèmes mixtes, mais a priori qui ne nécessiterait plus d'essence. Et de plus en plus, il y a des constructeurs qui vont vers l'hydrogène, donc des voitures qui seraient beaucoup moins polluantes. Mais ça ne résoudra pas tous les problèmes de mobilité, et on sait bien que on a de véritables défis, et c'est ce à quoi doivent aujourd'hui s'engager les gouvernements.
Parmi ces défis, c'est par exemple de remettre en service des trains dans les petites villes, là où les gares ont été fermées ces dernières années.
Ben voilà, c'est un projet que portent les écologistes, mais pas seulement eux, hein. Depuis 20 ans qu'on a réduit, enfin on a fermé des petites gares, etc., des services qui étaient de moins bonne qualité. Évidemment, le train est un transport collectif, en plus que les Français aiment. Il faut remarquer d'ailleurs, de ce point de vue-là, que le nouveau Premier ministre a pris des engagements qui vont dans le bon sens. Donc faut que ça continue, et puis faut les multiplier. Il faut aussi que les collectivités locales, qui ont un rôle très important, s'engagent. C'est, encore une fois, c'est pas facile, l'écologie. Il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas de baguette magique, etc. Mais il faut une mobilisation et il faut donner une bonne direction. Et encore une fois aussi, les Français ne pourront pas agir tout seuls. D'où la nécessité de créer des alliances et aussi de renforcer l'Union européenne, par exemple.
Christophe Rossignol, secrétaire général du mouvement Liberté, Écologie, Fraternité, invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. La mort du chanteur syrien Sabah Fakhry, il était une icône de la chanson à l'épine et célèbre dans tout le monde arabe. Il est mort à Damas, il était âgé de 88 ans. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, à 12h30 votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h18.